Afrique, les infos, à Washington.
19h en temps universel, à ce micro, je suis Mohamedou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Au Burkina Faso, deux personnes sont mortes dans des heurts à Houndé, dans l'ouest du pays, entre les forces de l'ordre et des orpailleurs. Ces derniers étaient en colère après l'interpellation de 12 de leurs camarades ayant participé la semaine dernière au saccage d'une importante mine d'or, a annoncé le porte-parole du gouvernement ce mercredi. Les heurts ont eu lieu lorsque les forces de l'ordre ont voulu limiter ou empêcher ces manifestations, a-t-il ajouté. Les incidents sont fréquents sur les sites aurifères burkinabés où les populations des localités abritant ces mines estiment que les retombées pour les communautés locales sont très faibles. Au Tchad, des affrontements ont eu lieu lundi entre orpailleurs à Kouri-Bougoudi, près de la frontière libyenne. Le bilan est encore indéterminé, selon le ministre tchadien de la Communication. Des leaders de l'opposition et de la société civile évoquent au moins 200 morts, des chiffres fantaisistes, selon les autorités. Aucun bilan n'a pu être donné de sources indépendantes. La zone située à plus de 1000 km de la capitale est hors de portée des réseaux de téléphonie. La région de Kouri-Bougoudi est truffée de mines exploitées souvent clandestinement par une multitude de chercheurs d'or venus de tout le pays et des États voisins sur une terre et un climat hostiles qui rendent les lieux difficilement contrôlables par les autorités. Au Zimbabwe, l'inflation a flambé à 131% en mai selon les données publiées ce mercredi par le Bureau national des statistiques. L'économie du Zimbabwe est plongée dans une crise profonde qui a notamment entraîné un retrait des bailleurs de fonds internationaux en raison d'une dette insoutenable. L'invasion de l'Ukraine a aggravé la situation, la Russie étant le principal fournisseur de blé et de produits chimiques utilisés dans l'agriculture locale.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
En RDC, l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont de nouveau accrochés ce mercredi sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu, provoquant des déplacements continus de population selon des sources concordantes. Comme la veille et après un calme relatif durant la nuit, des combats ont eu lieu vers Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. D'après les mêmes sources, les combats ont entraîné la coupure de la route nationale numéro 4, vital pour l'approvisionnement de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, qui compte environ 1 million d'habitants. En Gambie, le gouvernement du président Adama Barrow s'est dit prêt à faire juger dans son pays l'ancien président Yahya Jammeh, accusé d'une multitude de crimes pendant ses 2 décennies au pouvoir. Les autorités gambiennes avaient jusqu'à ce mercredi pour répondre aux rapports et aux recommandations d'une commission chargée de faire la lumière sur les crimes perpétrés dans le pays entre juillet 1994 et janvier 2017, période où Yahya Jammeh a dirigé le pays. L'Union africaine a lancé ce mercredi les préparatifs des 2 sommets extraordinaires consécutifs prévus vendredi et samedi en Guinée équatoriale, le premier sur les crises humanitaires et le second sur le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement. Ce sommet survient alors qu'environ 113 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en Afrique, dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs d'asile et des déplacés internes, selon le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, pour qui ces besoins humanitaires augmentent rapidement sur le continent à cause des chocs climatiques, des conflits intercommunautaires et du terrorisme. Et puis en Afrique du Sud, quelques centaines de personnes ont manifesté ce mercredi à Pretoria pour que la France, accusée d'impérialisme postcolonial, quitte le continent africain. Habillés aux couleurs du parti de l'opposant Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, ils ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La France dehors », »,« La richesse de la France sur le dos des Africains » ou encore « Réparation des crimes coloniaux ». L'ambassade de France a indiqué dans un communiqué que la France est un partenaire solide de l'Afrique du Sud et qu'elle respecte pleinement l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance de toutes les nations africaines. Fin de ce bulletin d'information, Mohamedou Oumfa, je vous remercie d'avoir écouté. Restez scotchés sur VOA Afrique et surtout à l'écoute de nos programmes. À très bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Eric Mandratiza avec vous. Bienvenue dans le dialogue des religions. Nous sommes à Baltimore, dans le Maryland, ici aux États-Unis. Une église chrétienne a organisé un baptême. Une dizaine de personnes, dont des enfants, des adolescents et des adultes, ont reçu leur baptême par immersion totale dans l'eau. Vous écoutez ce morceau musical. Ils sont en train de dire qu'ils sont très contents aujourd'hui, que c'est Alléluia. Nous discutons donc avec certains parmi eux, avec des parents, encadreurs et responsables, Lionel ou Daniela Garima, sur la mise en onde. Avec un jeune homme qui a été baptisé. Quel est ton nom?
Jace.
Tu t'appelles Jace.
Mm-hmm.
Tu as quel âge? How old are you?
11.
Ah. 11 ans.
11 ans.
Ah, tu as 11 ans. Ok. Tu as été baptisé. Est-ce que tu as pris cette décision tout seul?
Oui.
Maman ne t'a pas demandé d'être baptisé ou papa?
Non.
Non?
Non.
Et pourquoi tu as pris cette décision? Why did you take that decision?
Because I felt like I needed like to change and then erase my past and then become a new person in God's eyes.
Mm-hmm. Jace, il dit qu'il a pris cette décision tout seul parce qu'il pense qu'il va devenir une autre personne et que ça va le changer et surtout rompre avec son passé. Jace, merci beaucoup.
Ah oui, merci.
Jean-Claude, vous êtes membre de cette église.
Oui.
C'est votre fille qui a été baptisée, c'est ça?
Oui, exactement.
Oui, comment vous vous sentez?
Je suis très heureux aujourd'hui, puisque ça m'a rappelé aussi le jour que j'ai pris la décision de prendre mon baptême. Ayant un passé différent de l'église catholique, le jour que j'ai décidé de faire le baptême en immersion, ça a été une expérience magnifique. Et voir ma fille aussi prendre cette décision, c'est quelque chose qui me touche sensiblement. Ça me rappelle le voyage de Philippe qui avait rencontré l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible mais ne comprenait pas la Bible. Et après cela, l'eunuque a dit: voici la rivière, qu'est-ce qui empêche que je puisse être baptisé? Et Philippe, directement après l'eunuque, l'a baptisé. C'est parmi les mystères qui sont vraiment que la Bible nous donne comme un exemple très important du baptême. Même Jésus, en partant, nous a dit: je vous laisse et je vous demande de faire des disciples, et après être devenus des disciples, baptisez-les. Donc c'est vraiment une joie pour nous de voir des disciples aujourd'hui être baptisés, et nous sommes heureux.
Et votre fille, elle a quel âge?
Elle n'a que 10 ans, mais elle est très affermie. Elle a reçu Jésus quand elle avait 5 ans à l'église. Donc à l'école, elle part. Donc l'école est au Denton Baptist Church, c'est là où elle étudie et c'est là où elle a reçu Jésus. Et parmi les 5 dernières années, c'est une fille qui a été très très impliquée dans la lecture de la Bible. Chaque année, elle recevait un prix à l'école comme la meilleure personne dans la Bible. Et même à la maison, c'est parmi les personnes qui font des intercessions pour les autres. Donc c'est pour nous une joie de la voir être baptisé déjà à ce moment, avec déjà l'expérience qu'elle a.
Ça a été sa décision ou les parents?
Non, pas du tout. C'est une décision qu'elle voulait faire même l'année passée. Mais l'apôtre lui avait dit d'attendre une année. Et l'apôtre, l'âge aujourd'hui, était heureux aussi d'être là pour accomplir sa promesse qu'elle lui avait donnée.
Aujourd'hui, elle est baptisée. Est-ce que vous pensez que sa vie va être différente?
Je suis sûr, puisque la Bible nous dit aussi que même le jour du baptême de Jésus, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Donc, la colombe est descendue sur Jésus. Et non seulement ça, c'est parmi les expériences où nous voyons la voix de Dieu être audible. C'est quelque chose de très important. Et je pense que à partir de ce baptême, elle aura une autre expérience d'entendre le Seigneur de plusieurs manières. Et même peut-être avec une voix audible.
Et dans sa vie ordinaire, en dehors de l'Église, de la Bible, en quoi ce baptême va aider votre fille à être, disons, une citoyenne
du royaume. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. C'est comme, je dirais, le baptême, c'est comme un mariage. Vous pouvez être en relation avec une personne, mais à un niveau, le jour où vous décidez de mettre cette relation publique, les choses changent. Puisque au début, c'était juste vous et votre chérie, et vous vous rencontrez peut-être seulement au resto, et c'est pas public. Mais le moment où le mariage est public, les situations deviennent différentes, et votre relation, votre responsabilité, la relation devient encore plus sérieuse. Puisque là, vous êtes publiquement, vous avez déclaré au monde que je suis chrétien, et maintenant, la Bible, maintenant, peut aussi revenir vous dire que maintenant, il y a plusieurs témoins, comme la Bible le dit. Il y a plusieurs témoins qui sont en train de me regarder. Je pense que maintenant qu'elle a fait cet acte publiquement, va changer aussi beaucoup de choses dans sa vie.
Oui. Est-ce que votre vie sociale a changé lorsque vous avez été baptisé?
Bien. Je vous dirais que pour moi, ça a été une bénédiction, puisque quand j'ai fait cette déclaration, même si je n'avais pas beaucoup de gens qui sont venus, le jour de mon baptême, c'était à Maine, ici, en 2003. C'était en avril. Mais à partir de cela, le semestre qui a suivi, le Seigneur m'a béni pour recommencer l'université que j'avais stoppée pour 2 ans. Et donc, pour moi, ça a été une préparation de me lancer dans cet univers de l'université et d'être un chrétien public et non caché. Puisque quelque part, le fait que je n'avais pas fait cet acte public, ma chrétienté était un peu boiteuse, je le dirais. Mais quand j'ai fait ces déclarations publiques, je me sentais responsable de garder cette image d'un chrétien publiquement déclaré, de montrer mon image de l'amour de Dieu dans nos vies et d'être un bon témoignage.
Et d'être un bon papa aussi.
Bien sûr. Là, je n'étais pas encore papa, mais maintenant je suis un papa. Oui.
Ça vous a préparé à devenir...
Bien sûr, très 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 sûr. Très très sûr. Très très sûr.
C'est Claude Ngoga, n'est-ce pas?
Yeah.
C'est Gatagara.
C'est Gatagara, oui.
Bon, vous êtes originaire du Congo et du Rwanda.
Je suis, mon père est du Congo, à l'est du Congo, et ma mère... elle aussi du Congo, oui. Yeah. Mais nous avons vécu aussi au Rwanda. Après la guerre du Congo, on a bougé un peu vers le Rwanda, mais maintenant je suis américain et je suis plus encore citoyen du ciel, c'est ce qui est plus important.
Amen. Merci beaucoup.
Amen.
Voilà, je suis entouré par des enfants très jeunes et membres de l'église Crosspoint. Et parmi eux, il y en a qui ont été baptisés. Je vais commencer par qui? Toi, tu t'appelles comment?
Benito.
Tu as été baptisé?
Non.
What's your name?
Belina.
Belina, c'est son nom. Et toi, quel est ton nom?
Mika.
What's your name?
Alexia.
Elle s'appelle Alexia. Where are you from?
Maryland.
Tu viens d'où?
Bethesda, Maryland.
Tes parents, your parents?
Patience, Corona, and Alex.
Sierra Leone?
Yeah, from Sierra Leone, and Alex Robinson from Sierra Leone.
Tes parents sont originaires de la Sierra Leone. Il y a un autre jeune qui est assis dans le coin là-bas, qui se relaxe. What's your name, young man?
Isano.
Il s'appelle Isano. You are from Rwanda?
Yeah.
Oui, ses parents sont rwandais. Il y a aussi quelqu'un ici. What's your name?
Isabayo.
Isabayo, c'est son nom. Where are you from? Your parents?
Rwanda.
Tu viens du Rwanda aussi. Ah, une demoiselle ici. Ton nom?
Brianna.
Brianna. Vous avez été baptisé, certain, n'est-ce pas? Some of you get baptized. Qui peut me dire ce que signifie être baptisé? Who can tell me the meaning of being baptized?
dedicating your life to God.
Michaela dit que pour elle, c'est vraiment consacrer sa vie à Dieu, à dédier sa vie à Dieu.
To be able to understand God, like what is he telling you to be the way of his, like not doing bad things, not cursing and stuff. Just follow God, what is he telling you to do.
Benito dit que c'est pour mieux comprendre Dieu et mieux se comporter et comprendre qu'il ne faut pas faire du mal, qu'il ne faut pas insulter personne, voilà, qu'il faut être vraiment un enfant exemplaire, n'est-ce pas?
Dedicating your life to Christ, dying with Christ and resurrecting back with him in the spiritual, but not in the physical. Resurrecting with him and dying with him in the spiritual, but not in the physical.
C'est vraiment donner sa vie à Jésus, à Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour nous, mourir avec lui spirituellement et ressusciter également avec lui. Issa, non? Est-ce que toi, tu as été baptisé? Did you get baptized?
Non.
Lui, il n'a pas été baptisé. Why? Pourquoi?
You didn't want to? Tu n'as pas voulu?
I was going to get baptized, but then I made a last-minute decision not to.
Il allait être baptisé, mais à la dernière minute, il a décidé de ne pas le faire. Why you didn't want to? Pourquoi tu n'as pas voulu? Tu as renoncé?
I just decided that I wanted to do it when I was like older and more mature.
Il a pensé que c'est mieux de le faire quand il atteint un âge adulte, quand il devient mature, quand il atteint la maturité. Belina, you get baptized. Belina, tu as été baptisée.
Yes.
How do you feel? Comment tu te sens?
I feel very good. I feel it isn't like the same, but you know, just feels. I feel more calm, like more protected.
Je suis la même personne, je me sens très bien, mais je me sens quand même beaucoup plus protégée. Brianna, tu as été baptisée?
Non.
Why? Pourquoi?
I didn't think about it and I didn't. Technically, I didn't want to at first, but then I thought about it, but it was too late to get baptized then.
Franchement, je n'ai pas voulu, je n'y avais pas pensé, mais vers la fin, j'ai voulu quand même, mais c'était trop tard pour être baptisée. Ok. Guys, thank you so much for the discussion. Merci beaucoup pour cette discussion. And good luck.
Gracias.
Bonne chance. Nous sommes toujours à l'église Cross Point où nous suivons un grand événement. Des jeunes gens, 14 au total, viennent d'être baptisés. Et nous sommes avec Madame Patience qui encadre certains de ces enfants qui ont été baptisés. Madame Patience, how are you?
I'm fine, and you?
I'm good. Voilà, Madame Patience se porte très bien. Vous êtes d'origine Sierra Leonaise. You are from Sierra Leone,
yes,
right?
Yes, I am.
Et comment vous débarquez ici? How you end up coming here?
My mom told my parents I came here when I was 15 years of age in the 90s.
Donc, yes. Elle dit qu'elle est venue ici dans les années 90 avec sa maman.
I mean the church. Burundian, Congolese, Rwandan.
I would say so. It's a divine connection by way of.
C'est une connexion divine.
By way of Sister Jane Mupende.
Une amie qui s'appelle Jane Mupende.
Because she's my friend, and this was my last year in seminary.
Donc, j'étais sur ma dernière année au séminaire de l'école biblique.
And I needed to do just an internship so I can finish and get my degree.
Et donc, je devais faire un stage pour terminer mon programme de biblique.
So then she called me and said, hey, this lady's opened a church and I know you have to do your internship. How about you come and do it here?
Donc, mon amie Jane m'a dit qu'il y avait une opportunité de venir faire le stage avec Cross Point ici à Baltimore.
And at that same time, I was thinking about moving anyway. When I graduated, I was going to leave Pennsylvania and come to Maryland.
Et donc, je pensais déjà comment voir terminer mes études en Philadelphie, en Pennsylvanie, et venir à Baltimore, ici, au Maryland.
Déménager vers Maryland. Voilà, je lui demandais comment elle a atterri dans cette église où on trouve une communauté burundaise, rwandaise et congolaise. Let's talk about baptism. Parlons du baptême. You have kids, but baptized today, right?
Yes.
Vous avez eu des enfants qui ont été baptisés. Vous les encadrez tous les jours. You work with them Saturdays and
yes.
Sundays.
Sorry.
How do you feel? Comment vous vous sentez?
I feel good. I love working with youth and children.
J'aime bien travailler avec les jeunes enfants.
Especially the young ones because they're transitioning into adulthood, into teen and adulthood.
Spécialement les adolescents qui sont en train de devenir des adultes.
So it's a great, it's a privilege for God to choose me to work with children.
C'est vraiment un privilège pour moi de voir Dieu me choisir pour travailler avec les enfants et les adolescents.
But this particular set, it was different because of language barriers and cultural differences, but God grant me the grace to work with them.
Mais c'était un peu difficile, sachant que je suis de l'Afrique de l'Ouest et que ici c'est plutôt l'Afrique de l'Est, Centrafrique. Il y avait un peu de problèmes de culture, de différences, de langue aussi. Mais le Seigneur m'a donné la grâce de continuer à bien faire mon travail.
Est-ce que vous avez discuté justement du baptême avec eux avant de passer à l'action? Did you discuss with them about baptism before they get baptized?
Yes, we did. I had classes with them and yes. taught them on baptism, what it means to be baptized, and what is the symbolic representation, what it means to be immersed in the water, getting up in the water, and what it means to be a new creation. So yes, I did, and meaning that I said, when you are getting baptized, it means you're becoming a new creation. Yes, it doesn't mean that you're not going to struggle with sin. It doesn't mean that you become this perfect human being, but it means you're dying with Christ, right? And you're resurrecting back in Christ to have a new life. And meaning that you're no longer part of the world, you're part of His body. And whatever you're doing, even though you're struggling, but you know God is there to pull you up. So your characters have to change, the way you view things, the way you treat people, the way you treat each other, all that has to change.
Et donc, nous avons fait des enseignements avec les enfants qui expliquent le baptême, l'importance symbolique du baptême qui définit mourir en Christ et être ressuscité en Christ. Et donc, c'est l'immersion et puis être, comment dire,
une nouvelle créature
en Jésus et comment, à partir du baptême aussi, nous pouvons continuer à changer nos caractères et donc encourager les enfants maintenant à suivre et donc démontrer leur vie chrétienne publiquement avec plus de sérieuxité, je dirais.
Est-ce que c'est facile de travailler avec eux? Certaines sont des adolescentes, d'autres des adolescents. Is it easy to work with them? Some of them are teenagers already.
Challenges. For me, this is not my first time working with youth ministry because youth ministry is actually from age 12 in ministry age to 30 to 40. So that's all youth, but they have categories. You have the youth, then you have the teenagers, then you have the young adult, then you have the adult. So since I've been in ministry functionally working full-time ministry for over 10 years, it's not new to me. It was just different and more challenging because the children kind of mimic their parents' attitude and characters, which you really can't blame them. Kids mimic what they see.
Donc elle dit que ça c'est vrai, au début c'était un peu un défi, mais comme elle est déjà dans le ministère pendant plus de 10 ans et qu'elle a déjà travaillé avec les ministères des jeunes, des adolescents et bien sûr les jeunes qui deviennent adultes aussi. Donc au début ça a été un peu difficile puisque la plupart des enfants viennent de l'Afrique de l'Est et ils ont un certain caractère suivant l'éducation qui est donnée plus en Afrique de l'Est et moi qui ai grandi plus en Afrique de l'Ouest. C'était un peu difficile, mais petit à petit, je me suis habitué à cela.
Thank you, Miss Patience.
Thank you, Mr. Eric. I appreciate that. God bless you and thank you so much, Uncle Alvin.
Merci beaucoup à Madame Patience pour cet entretien.
Thank you.
I wish you the best.
You too. God bless you.
Thank you. Voilà, je suis avec le pasteur Tito. Pasteur Tito, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à l'église de Tumaini.
J'étais à Tumaini. Pour le moment, je suis à Kentucky. Je déménageais pour une autre mission. Je suis à Kentucky maintenant. Mais je reste connecté avec Tumaini.
Ouais. Tumaini, ça signifie espoir. Et pasteur Tito, il vient du Congo, exactement à Mourenge. Vous êtes Mounyamourenge?
Yes, je suis Mounyamourenge. Je grandis au Sud Kivu. précisément dans la zone d'Ouvira. Je fais mes études à Kinshasa. Pour ça, je suis allé au Rwanda où je continue avec le ministère. J'ai représenté une église là-bas. Je suis venu en Amérique en 2006, en 2005, en août 2005. Je suis resté aux États-Unis, précisément dans le Washington Metro Area. Je travaillais avec le Baptiste. Je travaille aussi avec le Good News Evangelical Church. Voilà.
Oui, vous êtes venu ici pour soutenir l'Église et les personnes qui ont été baptisées. Vous avez eu le privilège de faire la bénédiction pour clôturer la prière du jour. Est-ce que votre prière de bénédiction avait un lien avec le baptême?
Précisément, oui. Oui, parce que être prêché, c'est une chose. Et recevoir le Jésus-Christ, c'est une autre chose.
Vous dites être baptisé.
Être baptisé. D'abord, recevoir Jésus-Christ, c'est une chose. Être baptisé, c'est une autre chose. Si quelqu'un prend la décision d'être baptisé, Jésus aussi a pris cette décision. Ce n'est pas n'importe quoi. Jésus a pris la décision d'être baptisé. C'est un passage qu'un chrétien, tout le chrétien doit passer par. Tout le chrétien devrait être, après avoir reçu Jésus-Christ, il doit être baptisé comme signe de ressusciter avec Jésus, de mourir avec Christ, d'être enterré avec Christ et de ressusciter avec lui. Yeah, c'est vraiment un bon signe pour tout chrétien. La prière que j'ai faite, c'était pour prier au Seigneur qu'il donne à ce jeune, surtout que c'était une jeunesse, pour la plupart c'était des jeunes,
des adolescents,
que Dieu le fortifie à continuer de l'avant, à aller de l'avant. C'était ça ma prière. Nous voulons que ce jeune baptisé, demain soit capable d'amener d'autres, d'orienter d'autres personnes à être baptisées. D'aller plus loin, parce que dans le ministère, Dieu appelle n'importe qui. On ne sait pas, ces enfants, ces jeunes, demain ils pourront être pasteurs, ces jeunes pourront être des ministres de Dieu dans d'autres services. Et ils sont capables. Dieu a des réserves pour chaque baptisé.
Et en quoi le baptême accompagne quelqu'un dans la vie de tous les jours?
Le baptême, nous accompagne parce que ça fait partie de notre décision. Tout le temps, quand vous voulez commettre quelque chose, quand vous vous rappelez que vous avez été baptisé, ça vous ramène vite. Ça vous rappelle que vous avez pris la décision de ne pas retourner en arrière. Le baptême, c'est un signe.
C'est pour vous purifier, c'est ça?
Pas pour vous purifier. C'est pour vous rappeler tout le temps que vous êtes en communion avec Christ. Vous avez l'image de Christ pour le moment.
Merci beaucoup, pasteur Tito.
Merci, merci infiniment, merci. Et continuez à prier avec pour ces jeunes. Ils sont capables de beaucoup. Si vous continuez à les rappeler. Vous savez, mon fils, vous avez pris la décision de suivre Jésus. Pirate, continuez, je suis derrière vous. Et surtout, merci pour avoir été là, pour avoir accompagné tes enfants.
Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse.
Merci. Qu'il bénisse aussi les enfants. Nous arrivons au terme de ce dialogue des religions, édition exclusive consacrée au rituel du baptême par immersion ici à l'église Cross Point Healing House, l'église de la guérison des âmes. Eric Vanilla Kiza était avec vous depuis Baltimore dans le Maryland. Lionel Vanilla Gahima a assuré la mise en onde.
Vous étiez à l'écoute d'un programme enregistré. émission sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 25 mai 2022. Avec vous Eric Manilakiza, voici d'abord le sommaire. Les États-Unis sous le choc après une nouvelle fusillade qui a tué hier 19 enfants et 2 enseignants dans une école primaire du Texas.
Ça fait partie même du quotidien américain. La semaine dernière, il y avait le massacre à Buffalo et hier, c'était au Texas. La semaine prochaine, ce sera ailleurs.
En Gambie, le gouvernement est prêt à faire juger l'ex-président Yahya Jammeh, toujours en exil en Guinée équatoriale. La célébration aujourd'hui de African Day, la journée mondiale de l'Afrique.
Alors que nous continuons en tant que panafricanistes à nous dire, nous voulons nous unir, nous continuons à nous rappeler du slogan de Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir.
Vous en saurez davantage avec Mamadou Mignan Diouf, sociologue sénégalais et panafricaniste. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Hier, mardi, à la mi-journée, la terreur s'est abattue sur la petite ville d'Uvalde au Texas, où un jeune homme de 18 ans a tué 19 élèves et 2 enseignants dans une école primaire. Les précisions avec Nathalie Barge.
L'ancien lycéen a d'abord visé sa grand-mère, la blessant grièvement, et s'est ensuite rendu à l'école primaire Rob. Il est entré dans une classe, a ouvert le feu, tuant 19 élèves âgés d'à peine une dizaine d'années et 2 enseignants avant d'être abattus par la police. Une douzaine d'enfants ont aussi été blessés par le jeune homme, identifié comme Salvador Ramos, qui portait une tenue paramilitaire. Il s'était récemment acheté 2 fusils d'assaut le jour de son anniversaire. Plus de 500 enfants, dont près de 90% d'origine hispanique, étudient à l'école Rob d'Uvalde, à une heure de la frontière mexicaine. Il est temps de transformer la douleur en action, a réagi le président Joe Biden, très ému, dans une allocution à la Maison-Blanche. Se disant écœuré et fatigué face à la litanie des fusillades en milieu scolaire, il a laissé entendre qu'il était temps d'affronter le lobby des armes. Les écoles américaines sont régulièrement frappées par des fusillades. En 2012, à l'école primaire de Sandy Hook, dans le Connecticut, un jeune de 20 ans avait tué 26 personnes, dont 20 petits-enfants, avant de se suicider.
Cette dernière fusillade dans une école primaire du Texas a soulevé une vague d'émotions aux États-Unis et dans le monde. Le point avec Jean-Roger Bion.
En appui au président américain, la vice-présidente Kamala Harris a lancé « Nous devons trouver le courage d'agir », s'adressant à un congrès impuissant ou réticent à légiférer malgré la litanie de massacres. Depuis l'hémicycle du Sénat américain, le sénateur Chris Murphy a fustigé que de tels événements, cela ne se passe nulle part ailleurs qu'ici, aux États-Unis, et c'est un choix. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a parlé d'un acte monstrueux qui a volé l'avenir de chers enfants dans un communiqué. À l'étranger, le pape François a dit avoir le cœur brisé par ce drame. Il est temps de dire « ça suffit au trafic incontrôlé des armes », a martelé le souverain pontife. Le président français Emmanuel Macron dit sur Twitter partager le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté ses condoléances aux victimes et déploré qu'il y ait des victimes de tireurs en temps de paix. La Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes d'Uvalde.
Les écoles américaines ont particulièrement été vulnérables aux fusillades à répétition. Abdulrahman Dia a joint Jean-Germain Gros, professeur à l'université de Saint-Louis dans le Missouri.
C'est une tragédie, mais une tragédie tout à fait prévisible. C'est presque routine ce qui s'est passé au Texas hier. Ça fait partie même du quotidien américain. La semaine dernière, il y avait le massacre à Buffalo et hier, c'était au Texas. La semaine prochaine, ce sera ailleurs. Donc, c'est une tragédie, mais une tragédie tout à fait prévisible parce que ça fait partie malheureusement du quotidien américain.
Alors, il y a beaucoup de fusillades, plus de 200 déjà aux États-Unis cette année. Mais pour ce qui est des écoles, on a vu qu'après Uvalde hier, avant cela, on avait Sandy Hook. Les écoles sont-elles particulièrement vulnérables, difficiles à protéger?
Oui, bien sûr, parce que les écoles, n'est-ce pas, doivent être accessibles à tout le monde. On ne peut pas transformer les écoles en prison. On ne peut pas mettre des flics ou bien des policiers.
Jean-Germain Gros, professeur à l'Université du Missouri, que vous pouvez retrouver dans la partie magazine pour une analyse sur les fusillades aux États-Unis.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement gambien s'est dit prêt mercredi à faire juger en Gambie même l'ancien président Yahya Jammeh et des dizaines de personnes accusées de plusieurs crimes pendant ses plus de 20 ans à la tête du pays. Le point avec Rosine Munezero.
Le gouvernement gambien a accepté de poursuivre 70 personnes citées dans un rapport produit par une commission chargée de faire la lumière sur les crimes pendant cette période. Cela concerne l'ancien président Yahya Jammeh, a indiqué le ministre gambien de la justice Daouda Diallo dans un communiqué. Monsieur Jammeh, 57 ans, vit en exil en Guinée équatoriale depuis qu'il a perdu le pouvoir et il n'y a aucun accord d'extradition entre Banjul et Malabo. Le ministre gambien de la justice a toutefois déclaré lors d'une cérémonie devant les organisations de victimes et les acteurs politiques qu'ils ne sont pas disposés à laisser l'impunité à encourager les auteurs de crimes. Il a également annoncé la création d'un parquet spécial chargé des poursuites et l'intention du gouvernement d'instituer un tribunal au sein du système existant. Il a aussi précisé que cette cour qui sera établie en Gambie pourra également tenir des audiences à l'étranger.
L'attaque de dimanche dernier dans le nord du Burkina Faso a fait 63 morts selon des témoins joints par VOA Afrique. Mardi, le gouverneur de la région avait parlé de 11 civils, dont 3 supplétifs de l'armée tués dans cette attaque des djihadistes présumés contre 2 villages. Et selon des témoins, les forces de sécurité basées à 20 km ne sont intervenues que le lendemain de l'attaque de ces villages dans le département de Gorgadji de la province du Sénou dans la région du Sahel. Toujours au Burkina Faso, 2 personnes sont mortes dans des heurts à Houndé dans l'ouest du pays entre les forces de l'ordre et des orpailleurs en colère après l'interpellation de 12 de leurs camarades ayant participé la semaine dernière au saccage d'une importante mine d'or, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement. Et dans l'est de la RDC, de nouveaux affrontements ont eu lieu mercredi sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu, provoquant des déplacements continus de population. Les combats ont eu lieu vers Kiwumba, dans le territoire de Nyiragongo, à une 20aine de kilomètres au nord de Goma. Ils ont entraîné la coupure de la route nationale 4, vitale pour l'approvisionnement de la ville d'environ 1 million d'habitants. L'armée russe continue de progresser dans l'est de l'Ukraine, où Kiev admet que la situation est extrêmement difficile pour ses troupes. Moscou évoque une offensive longue et tente de consolider son emprise sur les territoires conquis au sud. Les forces russes intensifient leur offensive dans le Donbass, qui regroupe les régions de Lugansk et de Donetsk, et que les Ukrainiens peinent à défendre. Les chances de parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien s'en menuisent, a prévenu mercredi le négociateur américain en charge du dossier, qui a souligné que les États-Unis étaient prêts à réagir en cas d'absence d'accord. Le patron de l'OMS a promis mercredi aux pays membres de faire une priorité de la lutte contre les violences sexuelles dans les rangs de son organisation après un scandale impliquant des employés en RDC. La secrétaire générale de l'Organisation mondiale du commerce a appelé mercredi à limiter les restrictions aux exportations de nourriture. À l'heure où la guerre en Ukraine accentue la flambée des prix et les craintes pour la sécurité alimentaire mondiale, nous avons 22 pays maintenant avec 41 restrictions ou interdictions d'exportation de nourriture, a détaillé Madame Ngozi Okonjo lors d'un point de presse durant la réunion du Forum économique mondial à Davos. L'émissaire américain pour le climat John Kerry a annoncé mercredi à Davos l'extension d'une coalition d'entreprises et de pays qui s'engagent à financer des technologies pour décarboner l'économie sous l'égide du Forum économique mondial. Le journal du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et dans votre actualité économique, nous retrouvons Rosine Munezero pour la Minute Éco.
Le Zimbabwe voit le taux d'inflation bondir à 131,7% en mai, selon le Bureau des statistiques. Les prix de l'huile et du pain ont grimpé suite à l'invasion de l'Ukraine. L'inflation s'est levée à 96,4% en avril. La semaine dernière, le gouvernement a tenté de faire baisser les prix en suspendant les droits d'importation sur les prix comme l'huile, le riz et la farine. L'édition 2021 d'Africa Code Week a vu plus de 1,8 million de jeunes âgés de 8 à 16 ans équipés de compétences d'apprentissage et de codage cruciales pour le 21e siècle à travers 41 000 ateliers organisés sur le continent. Il s'agit d'une augmentation de 23% des jeunes formés par rapport à l'année dernière. Depuis le lancement de cette initiative en 2015, 10 millions de jeunes et d'enseignants ont été formés. Les États-Unis ont décidé de mettre fin à partir de mercredi à une exemption permettant à Moscou de payer ses dettes en dollars. La Russie va rembourser sa dette en rouble, a indiqué le ministère russe des Finances. La dette extérieure de la Russie représente, selon son ministère des Finances, environ 4 500 à 4 700 milliards de roubles, soit quelque 78 à 81 milliards de dollars, soit 20% de la dette publique totale.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports ce soir avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le tirage au sort des éliminatoires du CHAN Championnat d'Afrique des Nations Total Energies Algérie 2022 aura lieu demain jeudi.
Oui, ce sera lors d'une cérémonie qui débutera à 13h heure locale, 11h GMT au Caire en Égypte. Et pour une première dans l'histoire de cette compétition, le tournoi final qui se déroulera en Algérie en janvier et février 2023 regroupera 18 équipes. Le CHAN réunit les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Le Maroc est champion en titre depuis la dernière édition qui s'est déroulée en février 2021 au Cameroun.
En football toujours, le sélectionneur du Maroc a dévoilé sa liste de 27 joueurs sans Hakim Ziyech.
Oui, les 27 lions retenus devront affronter les États-Unis le 1er juin en match amical, puis l'Afrique du Sud le 9 juin et le Libéria le 13 juin à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. La grosse info ici, c'est qu'Hakim Ziyech n'a pas été convoqué.
En Premier League, le gouvernement britannique a donné son feu vert au rachat du club de football de Chelsea, convoité par un consortium mené par un homme d'affaires américain.
Oui, le multimilliardaire Roman Abramovich, qui a fait du club de l'Ouest londonien un acteur majeur de la Premier League et du football européen, peut désormais le céder au groupe mené par l'américain Todd Boehly. Le gouvernement a annoncé ce mercredi avoir approuvé l'offre de 4,25 milliards de livres, 4,97 milliards d'euros du consortium, comme l'avait fait mardi la Première Ligue. Après ce feu vert de Londres, les autorités européennes doivent encore donner leur approbation, mais celle-ci est désormais considérée comme une formalité, selon la BBC.
Changeons de registre pour parler cyclisme, 17e étape du Tour d'Italie.
Oui, une 17e étape remportée en solitaire par le grimpeur colombien Santiago Buitrago de Bahreïn à Lavarone, dans la province de Trentin, dans le nord italien. L'équatorien Richard Carapaz de Ineos a gardé le maillot rose de leader avec une avance inchangée de 3 secondes sur l'Australien Jay Hindley à 4 jours de l'arrivée.
Enfin, en NBA, Dallas met fin à sa série de défaites dans la finale Ouest.
Oui, sauvés des eaux, malgré des fuites provenant du toit de leur salle, les Mavericks, grâce à un gros effort collectif autour de Luka Doncic et une adresse retrouvée à 3 points, ont remporté 119-109. Une première victoire contre les Warriors mardi en play-off NBA. Dos au mur, Dallas était tenu de s'imposer pour éviter un coup de balai dans cette finale de conférence Ouest. C'est fait et plutôt bien fait, car hormis un sursaut dans le dernier quart-temps, Golden State n'a pas vraiment existé dans ce match numéro 4 pour lequel il avait certes le droit au faux pas.
C'était les sports avec Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Ici aux États-Unis, encore une autre tragédie dans une école dans l'État du Texas. Ce mercredi, les habitants de la ville d'Uvalde, au Texas, sont en deuil au lendemain du massacre de 19 enfants et 2 enseignants dans une école primaire. Une fusillade perpétrée par un jeune de 18 ans, alors qu'une autre tuerie survenue à Buffalo, à New York, n'a pas fini de faire parler. Sur ces fusillades et le débat sur les armes à feu aux États-Unis, Abdelrahman Dia a joint à Saint-Louis, dans le Missouri, l'universitaire Jean-Germain Gros.
Le fond du problème, c'est, disons, l'obsession américaine pour les armes à feu. Voilà le fond du problème.
Justement, cette fusillade d'Uvalde au Texas nous rappelle que pour le débat sur les armes à feu, il est toujours difficile de trouver un compromis. Pourquoi ?
Bon, il y a en tout premier lieu le pouvoir, la puissance du lobbying, the National Rifle Association, les politiciens, surtout les républicains, je dois dire, absolument ont peur du pouvoir de lobby du NRA. En fait, ce vendredi, le NRA aura sa réunion annuelle au Texas. Et le gouverneur du Texas sera l'un des intervenants.
Il y a des activistes qui proposent des choses, en tout cas qu'ils jugent simples, comme les enquêtes sur les antécédents, ce qu'on appelle les background checks. Pourquoi c'est difficile même à ce niveau de trouver un compromis?
Bon, c'est que les lobbies du NRA pensent que même des compromis, disons, modestes, peuvent se transformer. ils sont perçus comme des menaces. Donc, ils ne veulent aucun compromis parce que même des compromis les plus modestes peuvent être transformés en compromis considérables. Voilà.
C'est l'émotion aux États-Unis aujourd'hui. Certains vont dire, après quelques jours, ce sera le retour aux positions initiales des uns et des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cela change?
Bon, je crois qu'il faudra une mobilisation massive de la part des citoyens américains, surtout de la part de ceux qui veulent un changement, parce que ça ne pourra pas continuer à perpétuité. Donc, ce n'est pas une question de viser Washington DC. Non. On doit commencer par une mobilisation à partir de la base et utiliser la base comme une source de pression sur les politiciens.
C'était Jean-Germain Gros, professeur à l'Université du Missouri.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, la grève lancée par la principale syndicale des travailleurs du secteur public paralyse l'administration publique. Les principaux syndicats affiliés à l'UST, tels que le syndicat national du personnel de greffe, le syndicat des agents de l'administration générale du Tchad et le syndicat national des agents des affaires sociales et de la santé, ont observé ce mot d'ordre pour exiger la libération des leaders placés sous mandat de dépôt. Toutefois, un service minimum est assuré dans les hôpitaux comme prévu. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
À l'hôpital des districts de Chagwa, situé dans le plus grand arrondissement municipal de N'Djamena, le personnel qui assure le service minimum est débordé. Sur les 23 centres de santé qui sont sous la responsabilité de ce district, seuls les centres de santé communautaires et confessionnels travaillent. Dr Bessou Ernest Mahamat, médecin-chef de l'hôpital des districts de Chagwa, communément appelé hôpital de l'Union.
Au niveau des centres de santé, nous avons juste demandé au chef de service d'être présent au service, pas pour travailler, mais pour assurer quand même l'établissement, la sécurité des services, mais au niveau de l'hôpital, on est en train de faire le service minimum, surtout on prend en charge les urgences, sinon on est débordé. La santé, c'est trop sensible. Le syndicat se dit de voir aussi l'ampleur des peuples, le gouvernement aussi de faire de telle sorte que les procédures judiciaires soient respectées. Pour le moment, on assure toujours le service minimum, mais tout dépendra de ce que le syndicat nous dira.
À la Bourse du Travail, quartier général des travailleurs, les grévistes en petit groupe commentent l'actualité et passent des appels téléphoniques pour s'assurer de l'effectivité de la grève dans leurs services respectifs. Un seul mot d'ordre, la libération des leaders incarcérés.
La grève est illimitée jusqu'à la libération totale du secrétaire général et des autres leaders, parce que c'est lui le délégué titulaire. Il doit en principe quitter aujourd'hui pour Genève, pour la conférence internationale du travail, pendant que lui est là en prison.
La situation du pays nous oblige à aller en grève. Si réellement le gouvernement a la bonne volonté de résoudre le problème, qu'il libère simplement les leaders syndicaux et le travail reprend.
Le ministre de la fonction publique, Brahma Hamad, estime que cette grève est illégale et invite les travailleurs à ne pas suivre ce mot d'ordre.
Gounou, c'est sa personne, c'est pas l'USC. Et ce ne sont pas non plus tous les travailleurs cadiens. Ils sont assez matures pour faire la part des choses. Le gouvernement n'a pas touché à un seul de leurs intérêts. Si de façon illégale ils vont en grève, ils savent le risque qu'ils encourent.
Pour Mme Demba Karioum, chargée de programme pour les objectifs du développement durable de l'UST, le ministre de la fonction publique refuse de voir la vérité en face, puisque le secrétaire général de l'UST s'est engagé dans cette lutte au nom de tous les travailleurs.
Le ministre fait allusion au fait que l'arrestation de Gounou même est liée plus à la politique, mais le syndicat et la politique sont intrinsèquement liés. Quand on prend tout simplement le fait que nous voulons demander l'assainissement des finances publiques pour que les gens aient accès à l'eau, à l'électricité, et des meilleures conditions de travail. Ça, ce ne sont pas les affaires politiques qui exécutent cela. Ce n'est pas le politique, mais si le politique ne le fait pas, nous, en tant que travailleurs, nous devons le lui rappeler quelles sont ses missions premières. Nous allons faire la grève jusqu'au bout parce que nous, nous sommes habitués à se faire couper déjà les salaires. Salaire coûte quoi? La façon dont ils l'ont arrêté, ils peuvent aujourd'hui décider par un coup de téléphone de le libérer et qu'il regagne sa famille et puis le problème est réglé.
Une grève qui perturbe également les cours dans quelques établissements scolaires publics. Pour l'instant, le principal syndicat des enseignants du Tchad n'a pas encore donné sa position. André Koduma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, des combats sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu ont provoqué un déplacement continu de personnes. Jusque-là, aucune aide du gouvernement ou des organisations humanitaires n'a été signalée. Pour plus de détails, suivez ce reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Ces personnes déplacées qui ont fui les affrontements entre l'armée et le rebelle du M23 ont trouvé refuge ici, dans la cour de l'école primaire Kanyaruchinya. La plupart d'entre eux sont ici depuis hier, lorsque les affrontements se sont intensifiés à Kibumba et Buhumba, les localités d'où proviennent la majorité des déplacés. Depuis leur arrivée, ils n'ont reçu aucune assistance. Certains ont dormi à la belle étoile, comme Manga et sa famille, qui ont tenté en vain de trouver refuge dans cette église, mais personne n'a ouvert les portes. Lui et ses enfants ont alors dormi dehors devant l'église.
Nous sommes ici depuis hier soir. Nous avons trouvé plusieurs personnes déplacées qui campaient ici. Je peux vous montrer ma famille. Ils sont ici, ce sont mes enfants et mes belles-filles. Nous avons tous dormi ici sur le sol. Nous avons rencontré l'un des responsables de cette église. Nous l'avons supplié de nous donner un endroit pour dormir, mais il était catégorique.
Outre le manque d'espace équipé pour accueillir les déplacés, ils ne trouvent pas de nourriture. Certains n'ont pas mangé depuis hier. Clémentine a passé la nuit avec sa famille, le ventre vide, et pour trouver de la nourriture, elle a été obligée de mendier.
Nous avons déménagé hier à cause de la guerre. Nous sommes arrivés ici et nous n'avons rien trouvé à manger. Nous avons passé la nuit affamés. J'ai demandé aux passants un peu de nourriture. Si je ne pouvais pas le faire, je ne pourrais rien manger avec les membres de ma famille. Chacun va se contenter du peu qu'il trouve pour se mettre sous la dent.
La société civile du territoire de Nyiragongo tire la sonnette d'alarme. Faustin Zabayo, un des membres de cette société civile, demande au gouvernement et aux organisations humanitaires de vite prendre les dispositions nécessaires. Sinon, on comptera des morts parmi les déplacés.
Mais tel que vous pouvez le constater, jusqu'à présent, les sinistrés, les déplacés restent sans assistance quelconque. Et voilà pourquoi nous lançons un appel vibrant au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle. Puisque la protection de cette population, ça dépend du niveau de l'implication du gouvernement central et ses partenaires.
Les affrontements qui ont provoqué des déplacements massifs des populations se déroulent sur fond de regain des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kigali a accusé lundi l'armée congolaise d'avoir tiré des roquettes sur le Rwanda, blessant plusieurs civils, tandis que le Rwanda, qui les dément, est accusé par les militaires congolais de soutenir la rébellion du M23. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le continent africain célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'Afrique, African Day, qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Des intellectuels africains réunis ce jour à Dakar au Sénégal réfléchissent sur l'ancienne fédération du Mali, l'occasion de mettre sur la table les perspectives de développement pour le continent africain. Jean-Roger Bion a joint à Dakar Mamadou Mignan Diouf, sociologue et panafricaniste.
Arrive le 25 mai de chaque année, l'Afrique mère, sa diaspora dans les Caraïbes, dans le Pacifique même, dans les États-Unis comme en Occident, les Afro-descendants. Et tout le monde essaie donc de se rappeler de cette journée-là et pour voir quelles leçons on tire de cette première tentative d'organisation État africain dans une dynamique continentale.
Oui, alors quand les fils de l'Afrique se réunissent dans une capitale comme Dakar pour réfléchir sur la Fédération du Mali, est-ce dans l'objectif de relancer les espoirs d'unité?
On a voulu cette année. Cette année, on a voulu donc prendre comme thématique la Fédération du Mali, leçon et enseignement pour la construction d'un État fédéral africain. Et ça a été donc un prétexte de réinterroger, de revisiter le processus par lequel la Fédération du Mali a été mise en place jusqu'à sa mort, sa dissolution, voyant donc le Sénégal et le Mali finalement devenir chacun un État indépendant à part. Pourquoi on a voulu prendre ce prétexte? Parce que nous sommes dans un contexte, dès l'instant que les États balkanisés ne peuvent pas à eux seuls aujourd'hui assurer la sécurité, la paix, l'autosuffisance alimentaire ou la sécurité alimentaire à leur peuple, n'est-il pas temps de rediscuter, de revisiter toutes les tentatives, disons, fédérales ou confédérales, pour savoir quelles ont été les causes qui ont fait que ni la Fédération du Mali, ni la Sénégambie, ni la Fédération du Cameroun, finalement, qui est restée en état à deux langues, avec toutes les difficultés et les problèmes que vous savez, même la Fédération de l'Éthiopie n'ont pas réussi, toutes ces fédérations n'ont pas réussi à se mettre dans un état stable. Alors que nous continuons, en tant que panafricanistes, à nous dire, nous voulons nous unir. Nous continuons à nous rappeler du slogan de Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir.
Sur la route de l'unité se dressent des écueils comme les coups d'État actuellement en Guinée, au Burkina, au Mali, et puis les clivages avec l'ancienne métropole colonisatrice. Est-ce que tout cela n'amène pas à désespérer un peu de l'avenir du continent?
Pourquoi désespérer? Il faut plutôt donc savoir et évaluer, situer nos erreurs, nos limites, situer nos insuffisances et apprendre des erreurs de nos aînés. Il faut donc évaluer la gouvernance, changer le modèle de gouvernance et voir maintenant comment exploiter toutes nos potentialités, les ressources à la fois minières, économiques, démographiques, humaines et tout ça, et arriver donc pourquoi pas à avoir un mécanisme qui nous permette de dépasser la balkanisation de nos États, parce que les États balkanisés, aucun d'eux ne peut assurer à des populations ni la sécurité, ni la souveraineté, ni la santé, ni le développement durable.
Mamadou Mignon Diouf, sociologue sénégalais et panafricaniste. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Manilagahima et Michel Claire-Joseph. Eric Manilakiza a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, retrouvez-nous sur votre site voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
J'ai Muntu, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, D.C. Nous décollons, nous quittons Washington. Ce soir, donc, c'est donc un super fast, super sonique. J'ai dit merci aux passagers qui sont en train de m'écapter à Libreville, nos amis qui nous captent à Pointe-Noire. Et bien sûr, ceux-là aussi qui sont nombreux à Bangui, Baramo, Minguina, Bino, qui sont en train de nous capter, bien sûr, hein, dans le grand quartier à Mongo où on est ensemble. Attachez vos ceintures de sécurité, on décolle. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. N'oubliez pas de réagir à nos sujets socioculturels, soit sur mon numéro WhatsApp au +1 703 350 37 31. Je répète, c'est au +1 703 350 37 31. Notre grande question de cette semaine, c'est de savoir si vous savez c'est quoi l'importance de cette diversité culturelle que nous trouvons partout dans nos pays, dans notre continent, dans nos villages, dans nos villes. Oui, cette diversité culturelle, est-elle importante? C'est la grande question cette semaine. Vous êtes nombreux à réagir cette semaine. Et bien sûr, ce soir, on le fait en dégustant de la bonne musique. Country Music, A Different World. C'est avec cette chanson que nous décollons ce soir, bien sûr, que je dédie à tous nos amis qui sont en train de nous capter ce soir au quartier Assis 2000.
traditionnelle américaine qu'on déguise ce soir. A Different World. A Different World, c'est la chanson de Bucky Covington. Ce morceau que je dédie ce soir à notre ami Guy. Oui, Guy qui célèbre son anniversaire. Un grand coucou à toi, Guy Mayala, à Kinshasa, Cape Town, Mokili, à Yahweh. Le gâteau là, Guy Mayala, ne mange pas tout seul, hein.
Alphonse Mboaké qui participe à votre émission de cette semaine sur l'importance de la diversité culturelle. Elle est l'existence des différentes cultures au sein d'une organisation ou une société. Elle désigne le fait d'inclure différentes perspectives culturelles dans une organisation ou une société. Selon certains anthropologues et sociologues, c'est un concept servant à décrire l'existence des différentes cultures au sein d'une société, en fait à l'intérieur d'un État-nation. La défense de la diversité culturelle peut prendre plusieurs acceptions. 1. Un rééquilibrage à obtenir. Ainsi, l'idée de défendre de la diversité culturelle passe par la promotion d'actions en faveur des minorités culturelles défavorisées. De 2. La préservation des minorités culturelles menacées de disparition. 3. Dans d'autres cas, on parle de protection culturelle, ce qui renvoie au concept d'exception culturelle. Cela fait le lien entre la vision sociale de la culture et la vision commerciale de sa diffusion. L'exception culturelle met en avant une spécificité des productions et services culturels. Spécificité reconnue entre autres par l'Union européenne dans sa déclaration sur la diversité culturelle. Dans cette optique, l'objectif est de défendre contre ce qui est vu comme une marchandisation jugée néfaste, ce qui incarne une culture en soutenant son développement par des subventions, par des opérations de promotion. On parle aussi de protectionnisme culturel. 3. Cette défense peut aussi renvoyer à une défense de droits culturels menée sans succès au début des années 1990 en Europe, en calque des droits de l'homme. La diversité culturelle est partie intégrante de la francophonie, puisque la quasi-totalité des pays qui composent l'espace francophone sont multilingues. Dans les pays d'Afrique francophone, notamment, les Français, perçus comme langue de culture, cohabitent avec les langues régionales. D'autre part, la langue française est, avec l'anglais, l'une des deux seules langues parlées sur les cinq continents. La diversité culturelle est importante parce que nos pays, nos lieux de travail et nos écoles sont de plus en plus composés de divers groupes culturels, raciaux et ethniques. Nous pouvons apprendre les uns des autres, mais nous devons d'abord avoir un certain niveau de compréhension les uns des autres. Avantage de la diversité culturelle. La mondialisation est une tendance globale irréversible. Ses effets profonds sur les entreprises et les activités transfrontalières à travers le monde ont rendu les concepts de diversité culturelle très pertinents pour les dirigeants et les organisations.
Ici votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
little bit of guitar, a little bit of truck, a little bit of hound dog, and a little bit of luck. A little bit of bacon, a little bit of beans, a little bit of you loving up on me, a little bit of how it's supposed to be, a little bit of life, a little bit of backseat, a little bit of moon.
Après ce beau morceau, nous allons à présent passer à l'anglais, parce que l'anglais, c'est très important. Vous savez, quand vous apprenez l'anglais, ça fait toujours du bien, parce que c'est quand même une de langue comment la plus parlée dans le monde. En tout cas, quand on compare à d'autres langues, hein, ça fait partie quand même de ce langue-là. Michel. Hello, Michelle Joseph, our teacher. How are you today? What are we learning?
Hello, everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, kidding. Ça s'appelle K-I-D-D-I-N-G. K-I-D-D-I-N-G. Kidding. En fait, cela vient du verbe to kid, c'est-à-dire jouer à être un enfant. Du mot à mot, kidding, c'est le verbe à la forme active. Kidding, je joue à être un enfant. So, are you kidding? Tu plaisantes? You're kidding, right? Je ne te crois pas. Are you kidding me? C'est une exclamation. You've got to be kidding. Are you kidding around? We were kidding around. Être décontracté. Des amis, vous font une petite plaisanterie. Vous y croyez et vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Leur réaction, just kidding. Nous étions simplement en train de plaisanter.
Thank you very much, Miss Michelle Joseph. Just kidding. Kidding, c'était le mot du jour. Nous, on continue bien sûr en musique et vos réactions à notre sujet. D'où la semaine, l'importance de la diversité culturelle.
Accepter la diversité est la première étape pour devenir compétitif à l'échelle internationale. Nous mettons en évidence quatre avantages potentiels de la diversité culturelle sur le lieu de travail. 1. Premier avantage, stimuler l'innovation et inspirer la créativité. La diversité culturelle rassemble des perspectives, des connaissances et des compétences diverses qui, à leur tour, soutiennent la génération d'idées innovantes. Une étude de Boston Consulting Group a montré une corrélation significative entre la diversité et l'innovation en général. Le fait de réunir des perspectives et des expériences différentes et de les mettre à profit
permet de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions créatives. Deuxième avantage, attirer et mettre à profit les talents locaux et mondiaux. La guerre des talents pousse les entreprises et les organisations à rechercher des employés qualifiés à l'échelle internationale. Selon Glassdoor, 2 personnes sur 3 considèrent que la diversité et son appréciation sont importantes lorsqu'il s'agit de décider au travail. Ainsi, non seulement l'adoption de la diversité culturelle prépare à l'inévitable changement sur le lieu de travail, mais elle aide également les entreprises et les organisations à attirer et à retenir les talents. Troisième avantage, conduire à une productivité et des performances plus élevées. En plus d'être un levier d'innovation, la diversité culturelle peut également améliorer les performances et la productivité des entreprises. Par exemple, McKinsey a découvert que les entreprises dont le conseil d'administration est plus diversifié ont des meilleures performances financières. En outre, dans une étude très récente, McKinsey a constaté que la diversité est gagnante et doit être liée à l'inclusion. Quatrième avantage, offrir des possibilités d'inclusion. Le sentiment d'appartenance à un groupe et la valorisation de l'unicité personnelle sont essentiels pour les individus. D'après les recherches de Joshua Corral et Bernadette Park, elle permet aux gens de s'auto-vérifier et d'acquérir du pouvoir. Elle améliore leur position sociale et renforce le sentiment d'estime de soi. Intuitivement, la diversité culturelle est beaucoup plus visible et mieux comprise dans un environnement multiculturel. Ainsi, des efforts conscients de promotion de l'inclusion permettront aux entreprises de mieux gérer et exploiter la main-d'œuvre, d'obtenir des employés plus engagés et plus satisfaits et de donner aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutefois, pour tirer profit des avantages de la diversité culturelle, il faut disposer d'une main-d'œuvre culturellement compétente qui sait comment gérer les rencontres interculturelles. Diverses offres de formation visent à aider les entreprises à développer les compétences interculturelles de leurs employés. Outre les formats éducatifs classiques, les approches ludiques telles que les Serious Games Moving Tomorrow sont prometteuses de nouvelles tendances dans ce domaine. Voilà donc Roger Moutou, ma participation, ma contribution à votre émission hebdomadaire sur l'importance de la diversité culturelle. C'était donc Alphonse Mboua qui de Kinshasa. Allez, bye.
No stopping, break the tick, the clock at 3, they're right on where they want to be, in 4 o'clock, get up, get going, 5 o'clock, and we're still screwing.
comes up.
Bonsoir Monsieur Roger Muntou, bonsoir à tous les auditeurs de la VE Afrique, bonsoir à tous les fans de RM Show. Je m'appelle Sena Doji Kwadjo, depuis le Togo, Toti Batome. Je suis artiste, promoteur, journaliste. Pour mon intervention dans le studio de la semaine, pourquoi la diversité culturelle est-elle importante? Pour la première des choses, c'est que la culture, nos coutures nous apprend à nous connaître. Et la couture, c'est comme une empreinte sur nous. C'est une empreinte que nous avons sur nous. Donc, la couture nous permet d'échanger beaucoup de choses. Là, on peut dire que la couture, c'est la première des choses de l'éducation d'un individu. Parce que c'est la culture qui détermine, qui montre qui tu es, qui te donne un visage, qui te donne, je ne sais pas, je peux dire même, une vision dans la vie. Qui te permet de savoir d'où tu viens. Donc, nos coutures doivent être très importantes dans notre vie. Et la couture aussi, c'est aussi un dialogue physique et spirituel pour nous. Donc, la couture doit être très importante pour nous parce que la couture nous réunit, ça nous unit, ça nous apprend, ça nous donne beaucoup de choses. Donc, la couture doit être très important dans la vie de tout et chacun. Merci, monsieur Roger Muntou. Merci à tous les auditeurs. Dieu bless.
Ici votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h à 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
Ce soir, la musique traditionnelle américaine, la musique qui a franchi l'Est déjà des États-Unis dans les années 50. Restez avec nous, on continue en deuxième partie. God bless. Peace Africa.
Chaque après-midi avec Roger Muntou, RM Show, son avion est bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Mundo, RM Show, sur la voie de l'Amérique.
Chers passagers de RM Show, on décolle.
This is our RM Show, let's go. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Montu, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, ici, la grande capitale du United States of America. Pourquoi la diversité culturelle est-elle importante? La protection même de cette diversité, des expressions culturelles plus importantes que jamais aujourd'hui. On le voit dans plusieurs domaines, la protection de la diversité, c'est très, très important. Tous les ans, vous savez, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue. Et le développement est organisé bien sûr par l'UNESCO pour célébrer non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. On continue avec ce sujet bien sûr en écoutant de la bonne musique. Tout ce que je veux faire ce soir, c'est de souhaiter joyeux anniversaire à Godet Paradis Mouchia qui célèbre son anniversaire ce soir. Happy birthday, Godet Paradis. We'll be right back.
morceau Sugarland. Sugarland, super, super morceau qu'on a dédié, bien sûr, à nos amis qui nous captent ce soir, bien sûr, à Libreville et nos amis des Kikwit qui sont nombreux à Bandundouville, qui sont en train de nous capter ce soir. Vous écoutez Arab Show, une émission de Vue Afrique en direct de Washington DC. On va passer à l'actualité sportive. C'est tout de suite. Georges Léonard Sagnon, GLS pour les intimes, l'actualité sportive de ce
bonsoir,
mardi.
Bonsoir Roger,
parlons-en.
Bienvenue à toutes et à tous. On démarre par la NBA, c'est le championnat nord-américain de basketball qui se passe ici au pays de l'oncle Sam. Jouant à domicile l'année dernière, Dallas Mavericks a déjoué les pronostics en dominant Golden State Warriors. Score de la partie 119 à 109. C'est la première victoire, la toute première enregistrée par les Mavericks et Texans lors du quatrième match dans la série de finale en conférence Ouest. Elle a été assurée avec 10 points d'écart, ce qui donne espoir, un mince espoir aux supporters de Dallas. Mais attention, il reste 3 matchs à jouer au cours desquels les Warriors californiens n'ont besoin que d'une petite victoire pour être couronnés champions de la conférence Ouest. Il faut cependant préciser que la formation qui gagne 4 des 7 matchs remporte le trophée de sa conférence. La grande finale de la saison NBA opposera les deux finalistes issus de la conférence. Ce soir en Floride, dans le sud-est du pays, Miami accueille Boston pour disputer la 5e rencontre. La série est très serrée entre les deux équipes avec 2 victoires de part et d'autre. En Afrique, après le repos lundi et mardi, les demi-finales de la Basketball Africa League ont lieu ce mercredi. 2 chocs au programme. Petro de Luanda, Pape du Cameroun et l'US Monastir de Tunisie, Zamalek d'Égypte. Nous reviendrons sur ces matchs avec les résultats complets à l'appui dans nos prochaines éditions. Le Zamalek, champion de la première édition de la Basketball Africa League, est une formation redoutable sur le continent, on le sait. S'apprête-t-il donc à rééditer l'exploit de l'an dernier? Wait and see. C'était tout pour l'espoir de ce soir. Roger, avant de vous quitter, l'Afrique célèbre aujourd'hui la création de la défunte OUA, devenue l'Union africaine. Happy Africa Day donc à vous, auditeurs et auditrices. Bonne suite des programmes à vous, Roger, et à demain.
À demain, GLS. Merci infiniment pour ce segment sportif. Vous êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de Vue Afrique en direct de Washington DC. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Je salue nos amis qui sont en train de nous capter à Conakry ce soir et ceux-là qui sont en train de nous capter à Nzéré-Corée. On est ensemble. C'est Aram Show. On rigole avec Summer Long.
Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Yeah.
avec Roger Muntou.
Bonjour, très cher auditeur, très chère auditrice. C'est Ibrahim et j'appelle depuis le Niger. Concernant le thème de cette semaine, gardons ça, et l'importance de diversité culturelle. Je dirais que ça permet de valoriser le patrimoine culturel et de ne pas perdre dans nos régions. Parce que à notre temps, il y a certaines cultures, certaines danses qui sont en voie de disparition. Par exemple, au Sénégal, les femmes, eux, ils ont leur danse, leur habillement à part. Et au Bénin, ils ont leur habillement à part. Mais nous, au Niger, il y a certaines cultures qui sont en voie de disparition. Depuis que on a fait cesser certaines festivités parce que c'est grâce à ces festivités que on arrive à démontrer certaines chansons, donc certains faire des démonstrations de certaines chansons, de certaines cultures des régions. À cet effet, donc, je n'oubliais pas et bien des choses à Bonkana Mega s'il est à l'écoute pour ce morceau Marietu. Je crois qu'il est à l'écoute et aussi parmi les personnalités qui a fait sortir la culture du Niger, on mentionne Umaru Ganda. Donc ces chansons-là, il faut savoir les valoriser pour même les mettre en valeur. Et je salue pour le mot du jour, et malgré donc le désagrément. À bientôt.
Ici votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h à 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
Bonsoir, monsieur Roger Montou. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Bonsoir à tous les fans de RM Show. Je m'appelle Sena Dodji Kwadjo, depuis le Togo, Doti Batom. Je suis artiste, promoteur, journaliste. Pour mon intervention dans le sujet de la semaine, pourquoi la diversité culturelle est-elle importante? Pour la première des choses, c'est que la culture, nos coutumes nous apprend à nous connaître. Et la culture, c'est comme une empreinte sur nous. C'est une empreinte que nous avons sur nous. Donc, la culture nous permet d'échanger beaucoup de choses. Là, on peut dire que la culture, c'est la première des choses de l'éducation d'un individu. Parce que c'est la culture qui détermine, qui montre qui tu es, qui te donne un visage, qui te donne, je ne sais pas, je peux dire même, une vision dans la vie, qui te permet de savoir d'où tu viens. Donc, nos coutumes doivent être très importantes dans notre vie. Et la culture aussi, c'est aussi un dialogue physique et spirituel pour nous. Donc, la culture doit être très importante pour nous, parce que la culture nous réunit. Ça nous unit, ça nous apprend, ça nous donne beaucoup de choses. Donc la culture doit être très importante dans la vie de tout et chacun. Merci monsieur Roger Moutou, merci à tous les auditeurs. Dieu bless.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, dans RM Show sur VOA Afrique. Sing a note. Plasma getting bigger, Jesus getting smaller. Spill a cup of coffee, make $1 million. Cousin's got a dog with an aerosol can. If the shoe don't fit, it's gonna hit the shame.
Bonsoir, RM Show. Chez Patrick, à partir de la République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ville de Bukavu. Quant à moi, la diversité culturelle est d'une importance capitale parce que, premièrement, je vais tenter de définir la culture qui serait donc un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisé, qui étant apprise et partagée par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en collectivité particulière et distincte. Là-bas, qu'est-ce que je suis en train de vouloir montrer? Je suis en train de vouloir montrer que plus il y a diversité de cultures, plus il y a plusieurs manières de penser, il y a plusieurs manières d'agir, parce que deux personnes ne peuvent jamais agir de la même façon. Raison pour laquelle on aura besoin de la pensée de tel, et tel aura du retour de la pensée de l'autre. Et ça pourra maintenant servir quand on veut combiner les deux d'une manière ou d'une autre, ça peut apporter un changement à l'humanité. C'est-à-dire que, oui, est-il vrai que il n'existe pas une mauvaise culture et non plus une bonne culture n'a jamais existé. Ça dépendra d'un coin à un autre. Mais dans telle culture, on peut essayer de tirer ce qui est essentiel, ce qui ne peut pas détruire la morale. Et dans l'autre, on peut donc tirer ce qui peut construire. Et quand vous combinez les deux, vous allez savoir comment vivre. Voilà, merci beaucoup, je vous aime beaucoup.
Ici votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur
c'est depuis Congo Kinshasa. C'est toujours les Congo qui gagnent. Oui, j'interviens à votre débat d'aujourd'hui. C'est trop cool. J'adore. C'est très bien. Et ça nous épanouit aussi, nous qui sommes au continent, dans les pays, qu'on soit aussi fiers de notre culture. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit aussi fiers de notre culture, de ne pas être complexé, voilà. Il faut les montrer au monde que voici, voilà. C'est ça notre culture. Donc merci beaucoup.
Please don't let my dreams run dry.
avec cette superbe chanson Country Music Tonight que nous atterrissons à Washington DC. Ici, c'était à votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Demain, c'est jeudi. Qui dit jeudi dit African Music. Ne ratez pas la sélection musicale demain dans RM Show. La nuit porte conseil, les amis. Je vous dis merci d'être resté, d'avoir voyagé avec nous, allais-je dire. On se retrouve demain, tomorrow, Thursday. Night, have a good night. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace, Africa.
C'était RM Show, une émission de VOA. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Daouda est le plus célèbre boucher de Bantouka. Métou est une fidèle cliente, mais pas facile à satisfaire. Nous allons écouter la conversation. Vous répondrez par vrai ou faux, true ou false, à ces deux énoncés. 1. Métou avait acheté de la bonne viande avec Daouda. 2. Daouda essaya de vendre à Métou de la viande de poulet. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. Combien de kilos de viande d'agneau Métou veut-elle? 2. Pourquoi Daouda propose-t-il du foie à Métou? 3. Pour Métou, à quoi ressemble la viande du lapin accroché? Vous entendrez comment utiliser le mode impératif. Vous entendrez aussi le vocabulaire relatif à la boucherie.
Come on, come and buy. Ladies and gentlemen, I have the best fresh meat from Bantuka.
Hi, Daouda. Today, I'll take 2 kilos of tender lamb leg.
What's the occasion, Metu? Is it Valentine's Day or Women's Day?
Every day is Valentine's Day for me and for my husband.
Really? I can see that.
I'd like to prepare a special dish tonight.
I have everything you need. Beef, veal, mutton, even chicken and rabbit.
Didn't you sell me horse meat last time? I cooked it for 3 hours. It was too hard for my poor little old husband.
Metu, sister, buy him some leather. It would take you less time to cook and it's easier on the stomach.
Don't start again now, you sneaky salesman. Be polite.
Okay, Metu, don't worry. I have fresh mutton for you. Look at it. Did you say 2 kilos?
Yes, please. Say, what's that meat over there?
Rabbit. It's a whole rabbit. You want one? You'll be the first client. Come on, what will it be? Cutlet or legs?
No, thank you, Daouda. That hanging thing looks like a cat.
A cat? That's too exotic. I just sell common meat. And you know, everything has been controlled at the slaughterhouse.
Oh, please. When did the government build a slaughterhouse in Bantuka?
I have onions, charcoal, potatoes, pepper.
I thought you were a butcher. This butcher shop looks more like a bazaar.
We don't sell anything bizarre here.
Nous avons entendu dans ce dialogue le boucher Daouda et la cliente Métou. L'énoncé 1 est faux. Métou avait acheté de la bonne viande tendre avec Daouda. L'énoncé 2 est faux. Daouda essaya de vendre à Métou de la viande de poulet. Voilà les réponses aux questions. 1. Combien de kilos de viande d'agneau Métou veut-elle? 2 kilos. 2. Pourquoi Daouda propose-t-il du foie à Métou? Ça prend moins de temps à cuire. 3. Pour Métou, à quoi ressemble la viande du lapin accroché? À un chat. Nous allons maintenant apprendre le vocabulaire de la viande utilisé par Daouda et leur traduction anglaise. Écoutez et répétez. Viande de bœuf, beef. Viande de veau, veal. Viande de mouton, mutton. Foie, liver. Poulet, chicken. Viande de lapin, rabbit. Répétons enfin ces phrases de Daouda et de Metou.
Come and buy, come and buy. Buy him some.
Don't start again now.
Look at it.
Ces phrases sont à l'impératif. Elles expriment ici une invitation, une mise en garde, un conseil. L'utilisation de l'impératif à la deuxième personne est simple et le sujet n'est pas exprimé. Nous avons entendu Daouda et sa fidèle cliente, Metou. Vous avez appris le vocabulaire de la boucherie et aussi appris comment utiliser l'impératif pour exprimer une invitation, une mise en garde ou un conseil. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Dans cette leçon, vous allez entendre le verbe to be au présent, c'est-à-dire le verbe « être », avec la contraction. Par exemple, « What is his name ?» Littéralement, « Quel est son nom ?» Comment s'appelle-t-il ? Avec la contraction, en anglais, on avale le « is » et vous entendrez un « s » à sa place, un sifflement. « What's his name ?»«
What's his name ?»«
What's her name ?» pour dire « What is her name ?»« What's her name ?» Les pronoms personnels à la troisième personne du singulier « he » et « she » et les pronoms possessifs « his » et « her ». « He is from the US. » Il vient des États-Unis. « He » il. « He is from » c'est-à-dire littéralement « il est des États-Unis »,« il vient des États-Unis ». Contraction du verbe conjugué « is », vous n'entendrez que le « s ».« He's from the US ».« She's from the US ». Écoutez la conversation qui va suivre. Je vous prépare un peu avec le vocabulaire.
Good morning, Kathy. How are you this morning?
Ils se disent « bonjour ». Good morning. How are you this morning? Comment vas-tu? Comment allez-vous ce matin? How are you this morning? Vous allez entendre une réponse très américaine. I'm great.
I'm great.
C'est la contraction de I am great. Littéralement, je suis super. Plus correctement, je me sens super bien. I am great. I'm great. And you? Et toi? Et vous? Autre réponse très américaine, pretty good.
Pretty good.
Traduit littéralement, joliment bien. Pretty good. Joliment bien. Et plus correctement en français, pas mal. We have a guest. Nous avons un invité.
We have a guest with us today.
A guest, un invité. Listen, écoutez.
Good morning, Kathy. How are you this morning?
I'm great. And you?
Pretty good.
We have a guest with us today.
What's his name?
His name is Robert Harris.
Robert Harris?
Yes, Robert Harris. He's from the United States.
Écoutez et répétez. Listen and repeat.
What's his name?
Quel est son nom?
His name is Robert. His name is Robert. What's her name?
Vous entendez la contraction?
Her name is Kathy. Her name is Kathy. What's your name?
Quel est votre nom?
My name is Max. My name is Max.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous allons à un procès avec Martin Lerner. We are going to court. Il va avec son fils qui n'a jamais été dans un tribunal. Dans cette leçon, vous apprendrez à décrire l'apparence des gens. English USA est diffusé en direct de Washington. Au micro, Michelle Joseph. Au cours de cette leçon, vous apprendrez des expressions et des phrases que vous pourrez employer pour décrire l'aspect physique des gens et l'impression donnée par les personnes que vous rencontrez. Aujourd'hui, Martin Lerner, accompagné de son fils, est venu assister à un procès, a trial, dans le tribunal de sa juridiction. Son fils est bien curieux et lui pose des questions. Par exemple, What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Ou que se passe-t-il? What's happening? Nothing yet? Rien encore? Nothing yet? The judge is 6 feet tall. Le magistrat ou le juge fait plus d'1,90 m. He has a lot of white hair. Il a beaucoup de cheveux blancs. Écoutons leur conversation avant que le procès ne commence.
Let's sit here, Alan. You can see everything. Excuse me, please. Are these seats taken?
Excuse me. Thanks. What's happening, Dad?
Nothing yet. What do you want to know?
Everything. I've never been in a courtroom before. Of course, I've seen them on TV and the movies. Is that the person on trial?
Which one? The one with blonde hair?
No, the young man at the other table. He looks very excited.
No, the one on trial is that short man. The plaintiff is the tall, thin woman in front of us. She's the victim.
She looks very confident. Are you sure she's the victim?
Of course. You can be a victim and still be confident.
I know. I was kidding. I thought she was a lawyer.
Why?
I don't know. She's well-dressed. She looks very nice.
She's the main witness. She needs to look her best. She wants the court to believe her.
Who is that woman sitting at that little table?
She takes down everything people say in the courtroom.
She seems very uncomfortable. What is that machine? Is it some kind of tape recorder?
No, she types on it.
Doesn't look like a typewriter. It's too small.
It's a special kind of typewriter. The court must have a written record of what is said in the trial. You'll see, someone will ask her later to repeat what someone else said.
Is it time to begin?
Yes. We're waiting for the judge.
Where is he?
He's probably in a room behind that door on the left.
Why is he waiting?
He's probably studying his papers before he comes in. He'll be here in a minute.
Do you know the judge?
I've seen him. His picture is in the newspaper or on TV now and then.
What does he look like?
He's very large. He's more than 6 feet tall. He weighs over 200 pounds. He has a lot of white hair.
Is he old?
Not very. He's about 55 years old.
That's pretty old, Dad.
Here comes the judge.
Miss Richards, could you describe the man you say came to your door?
Of course. He was very short.
How old was he?
I'll come to that. He was very short. He was shorter than average, maybe only 4.5 feet tall. He was also heavy.
Do you mean fat?
I don't use that word.
Was he what other people might call fat?
He was heavier than average.
So he was short and fat.
Vous avez sans doute essayé de raconter un événement ou une histoire vécue. En vous servant de votre imagination, jouez la scène et employez le vocabulaire que vous venez d'entendre. Mais écoutez d'abord la conversation entre Martin et son fils, qui vous servira d'exemple pour décrire l'aspect physique des gens.
The one with blonde hair? It must be the tall, thin woman in front of us.
She looks very pleased. She's well dressed. She looks very nice.
He's more than 6 feet tall. He weighs about 200 pounds.
Pour vous familiariser avec l'art de décrire l'apparence des gens, essayez de répondre aux questions de Martin Lerner. Faites comme si vous vouliez décrire un trait particulier de l'aspect physique d'un de vos amis. Écoutez bien, il vous demandera par exemple, « What color is your friend's hair ?» Quelle est la couleur des cheveux de votre ami ?« What color is your friend's hair ?» Et vous répondrez ce que vous voulez. Il vous demandera aussi, « How tall is your friend ?» Quelle taille a votre ami ? Ou bien encore, « How old is your friend ?» Allez-y, répondez.
« What color is your friend's hair ?» How tall is your friend? How old is your friend? How much does your friend weigh? How does your friend look?
Petit exercice en vocabulaire. Tout d'abord, dans les verbes. Décrire, to describe. Dans le contexte suivant, can you describe the plaintiff? Pouvez-vous décrire le plaignant? Can you describe the plaintiff? Ou bien, can you describe the victim? Pouvez-vous décrire la victime? Can you describe the victim? Autre verbe, to kid, blaguer. Are you kidding? Est-ce que tu blagues? Ça, c'est une expression très typiquement américaine. Are you kidding? Est-ce que tu blagues? To kid. To rob, voler. To type, taper à la machine. She types everything she hears. Elle tape à la machine tout ce qu'elle entend. To type. Quelques adjectifs, descriptifs. She looked confident. Elle avait l'air sûre d'elle-même. Confident, sûre de soi. She looked confident.
What did you think, Alan? Did you learn something from the trial?
Yes, I liked it. The people were interesting, weren't they?
Was it like the movies?
Almost. I understood what was going on. Thanks for going with me, Dad.
Describe some people that we know. Décrivons des personnes que l'on connaît. I'm going to describe my father. Je vais décrire mon père. He is above average height. Il a un peu plus de la taille moyenne pour homme. Ou bien, he's balding. Il est un peu chauve. He's balding. He has brown skin. Il a la peau bien marron, marron foncé. He wears a moustache. Il porte une moustache. He has large hands. Il a de grandes mains. He looks very confident. Il a l'air très sûr de lui-même. He looks very confident. How does your friend look? Et vous, votre ami, comment a-t-elle l'air ou comment a-t-il l'air? How does your friend look? Describe your friend. Is he tall? Est-il grand? Is she short? Est-elle petite? Décrivez un ami ou une amie. Go ahead. How does she look? Comment a-t-elle l'air? What does he look like? Comment a-t-il l'air? J'espère que vous avez bien appris à décrire les gens que vous connaissez bien. And what about yourself? Et vous-même, pouvez-vous vous décrire? And what about yourself? Pourriez-vous faire oralement un autoportrait? Pourquoi pas? It's good practice. Try it. And you know it by heart. Vous connaissez bien par cœur. In the meantime, entre-temps, have a great practice.
To Anglais Télé. Bienvenue à Anglais Télé. I'm Michelle Joseph and I have a special guest with me.
Je suis Daniel Crafton. Bienvenue à tous.
And welcome, Dan. We're very happy to see you. Today, we are going to talk about a subject which is close to Daniel's heart. You see how physical I am?
Oh,
close to his heart.
And to yours too.
And to mine too. We both love to travel. I think everyone loves to travel. And so we're going to break it down. We're going to start with the simplest form of travel. And I think everyone knows what that is. Let's start with Dan. Let's tease him and see if
How about walking?
Walking is the most simplest way to travel for a human being, that
right.
is. We walk on our feet. On our legs. Do you like walking, Dan?
Yeah, I like walking.
Oh, he doesn't sound like he loves walking. I love walking.
I don't walk enough, but I like walking.
Okay, he doesn't walk enough, but he likes walking. I love walking. Walking can be for leisure, you know, if you like to walk, to stroll, or for exercise. And that means, you know, you're really walking very fast.
Especially overseas when I'm walking.
Ah, he likes to walk overseas. This is also vocabulary linked to travel.
Right.
Overseas yeah. means over the seas. So
away from America.
Away from America, for Dan, that is.
Right, yeah.
Maybe for someone in Mali, overseas
would
is...
Would be here.
Exactly. All right. So let's go to the next simplest form of transportation or movement. And I put down here, bicycle. Will you agree?
Yes. I agree.
Okay. And
a lot of bicycles in the world.
A lot of bicycles. In fact, in some countries, the bicycle is really major.
It rules.
It rules.
Nobody can afford gas.
I know.
Traffic jams.
Bicycle, you just need your two legs, right?
Yes.
And two wheels, a good bicycle.
In some countries, there's millions of bicycles.
I know, like in China, right?
Oh, darling.
They're all, you know, at a bus stop.
In a lot of Asia.
A lot of Asia uses bicycles. And Africa, too.
Oh, yeah.
I grew up with a lot of bicycles where I grew up in Kenya. A lot of bicycles. Okay, so we've covered two modes of transportation, walking, biking. And we are going to go to the next mode of transportation, which is very common for all of us. And it is the car.
Right.
Okay.
Too many cars in the world, but, you know.
Right. The car. La voiture. I think everyone knows what that is. All right. Do you like cars, Dan?
I like to drive, actually.
He likes to drive. So to drive is the verb connected with the car.
Right. Just put me in a car and point me somewhere, and I'm there.
Okay, so he doesn't need a GPS. You put him in a car.
Right. And I am the GPS.
And he's gone. He's the GPS because he loves traveling.
Right.
And where would you drive, Dan, around here, for example?
I wouldn't drive around here.
Oh, he wouldn't drive around here. Where?
I'd drive somewhere far.
Somewhere far. So
maybe Canada.
Canada. Okay. So you have to drive north, south, west?
North.
East? North. So
very far north.
Very far north.
About the border's about 800 kilometers.
Okay. So about 8 to 10 hours drive.
Oh, yeah.
Or more than that, actually.
Yeah, 10.
10 hours or maybe...
To the border.
To the border of the U.S. and Canada. Okay,
right.
That's a lot of driving.
Well, I'd stop on the way.
Right. There are many stops on the way. That's nice. What are those called? Rest stops?
Rest stops. You get gas. You eat.
Right.
You relax.
Okay, hey. And you can get out and walk.
Right. And that's the advantage of driving.
Yeah, driving is great. Okay. So... if we can't drive, the next nice mode of transportation is taking the bus, right?
Right, and the bus is inexpensive.
The bus is cheaper, usually. We don't have to pay gas.
No.
We pay for a ticket, right?
And you can sleep on the bus.
Sometimes you can sleep.
If it's a long trip.
Absolutely.
And you can relax on the bus. You can play games on the bus.
Right, because you are not driving. There's a driver. Someone else drives. And we call that person a driver.
And there's a lot of buses in the world.
A lot of buses.
Remote places. People standing out in the middle of nowhere, waiting for the little bus to come down the road.
Yes, what would we do without buses?
Beep, beep. You know.
Buses are so absolutely essential to most of us, you know.
Especially in a lot of the countries that you know.
Right, absolutely. But even for those of us who have cars, we don't want to drive to work. We don't want to drive... to certain places, we prefer to get on the bus.
Right.
Right. If the public transportation is good. Right?
Right.
Okay. So we'll leave you right there and come back with a few more modes of transportation. Welcome back to Anglais Télé. Je suis Michel Joseph. I'm Michel Joseph, and I have a special guest here.
Je suis Daniel Crafton. Bienvenue aussi.
Merci, Daniel. Bienvenue, and welcome to Anglais Télé. We're talking about Daniel's favorite subject, travel or movement, and we have arrived at the train
mode.
I believe.
Right, the train.
The train or the metro in some cases, right?
Right. But the metro's local and the train could be for the whole country.
Okay, let's distinguish between local. A metro is local, meaning it's for that particular city.
Or region of the city even.
Or region, right.
Yeah, it could be more than a city.
Right, because for example, in Washington, the metro extends into Maryland. It extends into Virginia.
In Paris, it extends about 80 miles.
Absolutely. I think I took the metro.
Way out into the suburbs.
Right. So the metro and train look somewhat alike, right?
Right.
You have an engine. You have a first car, which has the...
Engineer,
and then several train wagons. They call them cars, actually.
Right. Where they ride.
Right. So train cars or metro cars, that is the term you use for the wagons, actually, right?
Right. The only difference is that a train usually goes much, much farther than the metro.
Okay. And I think the metro's fast.
So is a train.
Right. Some trains are extremely fast, actually. Okay. Well, do you like boats, Daniel?
I don't go on many boats.
Oh,
I'm not a good swimmer, but boats are necessary.
Boats can be very useful in areas where there's a lot of water. Sometimes you have rivers in a city.
Especially in Africa.
Right. And then sometimes you have the ocean helping people to provide a means of transportation on a boat or a ferry. And you can reach another city further up the coastline, right?
Or another country.
Or another country. All right, bye. And bye to all of you, and enjoy your travel.
Bye to all of you, too.
Bye.
Travel safely.
Be safe.
Yeah, right.
Welcome to Learning English, a daily 30-minute program from the Voice of America. I'm Jonathan Evans.
And I'm Ashley Thompson. This program is aimed at English learners. So we speak a little slower, and we use words and phrases, especially written, for people learning English.
Today on the program, you will hear from Mario Ritter Jr., Brian Lynn, Jill Robbins, and Faith Perlow. Later, Katie Weaver and Ashley will present the next part in our series on America's national parks. But first, here is Mario Ritter Jr.
Leaders of the United States, Japan, Australia, and India gathered in Tokyo on Tuesday for a meeting of the group known as the Quad. The issues of American support for Taiwan and Russia's war in Ukraine have gained attention recently. So did China's militarization in the disputed South China Sea and Australia's nuclear submarine program. But what is the group, and what is the importance of the partnership? The name Quad comes from the official name of the group, the Quadrilateral Security Dialogue. The Quad began as a loose partnership after the extremely destructive 2004 Indian Ocean tsunami. At that time, the four countries joined together to provide humanitarian and disaster aid to the affected area, including Indonesia and several other countries. But the group was formalized by former Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007. The group did little for nearly 10 years. This was partly because of Australian concerns that its membership in the group would anger China. The group was resurrected in 2017, reflecting changing ideas in Asia about China's growing influence. The administrations of both former U.S. President Donald Trump and President Joe Biden believe the Quad is important to placing more attention on the Indo-Pacific area, especially to balance China's actions. The Quad leaders held their first official meeting of top leaders in 2021. They met again by video link in March. China has criticized the group as an attempt at forming an Asian NATO. However, the group is unlike the European Military Alliance or North Atlantic Treaty Organization because there is no mutual defense agreement in effect. Quad members say the group is meant to deepen economic, diplomatic, and military ties among the four countries. The members do not state that their partnership is meant to be a defensive alliance against Chinese aggression. In March 2021, members released a declaration describing the spirit of the Quad. The leaders said they aim to establish the Indo-Pacific as an area that is free, open, inclusive, healthy, anchored by democratic values, and unconstrained by coercion. Coercion describes causing a country to do something using force or threats. Tuesday's meeting marks the first in-person gathering of the group for Chinese Prime Minister Fumio Kishida. Kishida took office last October. The meeting also provides an introduction for Australia's new Prime Minister, Anthony Albanese. He was sworn in on Monday, just 2 days after Australia's parliamentary election. Indian Prime Minister Narendra Modi is also attending. Modi is facing increasing international pressure over several issues. His government's policies toward minorities have been criticized. India increased its purchases of Russian energy supplies after Russia invaded Ukraine. Other Quad members have placed strong restrictions on Russia's economy. And India has banned wheat exports at a time when world wheat supplies have been sharply reduced because of Russia's war. Indian officials blame hot spring weather, which led to a poor harvest, for cutting exports. South Korea has expressed interest in joining the Quad. U.S. officials have said they are not currently considering adding to the group's membership. The group has held Quad Plus meetings that have included South Korea, New Zealand, and Vietnam. These nations could form the basis for future expansion or partnership in the Indo-Pacific. I'm Mario Ritter, Jr.
World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has been re-elected to a second term. His re-election was confirmed Tuesday by the WHO's governing body, the World Health Assembly. The vote came during a meeting in Geneva, Switzerland. The assembly includes 194 member states. Tedros was the only candidate running for the position. His new term will officially begin on August 16, 2022. Tedros was first elected in 2017. Tedros is a former government minister from Ethiopia. He is the first African to lead the agency and the only director general who was not a medical doctor. Tedros directed the United Nations Health Agency through its efforts to fight the worldwide COVID-19 health crisis. He was sometimes criticized for WHO policies related to the pandemic. But he also enjoyed widespread support among UN members. Javier Guzman is the Director of World Health Policy at the Center for Global Development in Washington. He told the Associated Press the WHO did experience some mishaps while dealing with the COVID-19 pandemic. However, Guzman said Tedros had kept a steady voice during the crisis and that he supported equitable policies. Tedros has often been critical of wealthy nations who resisted sharing COVID-19 supplies with developing countries. He also called on drug companies to do more to make their vaccines available to the poor. Guzman said that while some countries had concerns about Tedros's leadership, they were not willing to currently push for a change. "We are in the middle of the pandemic, and there is some pressure for consistent leadership to take us through this difficult moment." Still, critics say Tedros had failed on several important issues. Some questioned his leadership during one of the biggest sex scandals in UN history. It involved accusations that dozens of workers managed by the WHO sexually abused young women in the Democratic Republic of the Congo during an Ebola outbreak that began in 2018. None of the WHO managers who were told about the accusations and did little to stop the abuse have been fired. Tedros has been criticized for not holding the workers accountable for their actions. As Tedros begins his second term, some experts have also raised concerns that the WHO is not completing its duty to provide science-based guidance to member countries. Dr. David Tomlinson is a heart specialist who has campaigned for better protective equipment for health workers in Britain's health system. He told the AP he was surprised at some of the advice given by the WHO. One example he gave was the organization's unwillingness to admit that COVID-19 is widely spread in the air. In July 2020, more than 230 scientists published a paper appealing to the WHO to recognize that the coronavirus was airborne. The paper later persuaded the WHO to change some of its guidance on the subject. Tomlinson and others say Tedros and the WHO should aim in future health emergencies to get a full examination of the available science. "We need an agency that's unafraid to tell the truth. But that's unfortunately not what we have," Tomlinson said. I'm Brian Lynn.
As the war in Ukraine continues, there is increasing evidence that Russia has knowingly attacked schools. Attacks on civilian structures are considered a possible war crime. The Ukrainian government says Russia has shelled over 1,000 schools and has destroyed 95. The Associated Press said the large amount of wreckage and damage is evidence that Russia knew that it was targeting schools. Recent attacks include a school in the eastern village of Bilohorivka, where a bomb destroyed the school, On March 3rd, School 21 in Chernihiv was bombed. School teacher Ina Levchenko had reopened School 21 to shelter scared families. She has taught there for 30 years. School officials painted the word children in large letters on the windows. Russia bombed the school anyway. Levchenko was buried under wreckage, and her legs were broken. She could not see because of blood and dust, but she could hear screams. Just before the attack, she had ordered 70 children to shelter in the basement of the school. They would survive, but 9 other people, including a 13-year-old boy, who was her student, would not. Levchenko said, "Why schools? I cannot comprehend their motivation. It is painful to realize how many friends of mine died, and how many children who remained alone without parents got traumatized. They will remember it all their life and will pass their stories to the next generation." The Associated Press and the PBS series Frontline have been investigating the incidents. The two reported that they have independently confirmed that Russia has destroyed 57 schools. They say the attacks were carried out in a way that suggests possible war crimes. These schools represent a few of the many possible war crimes. Ukraine's Prosecutor General, Irina Vinodiktova, the International Criminal Court, and others are investigating more than 8,000 possible war crimes involving hundreds of suspects. They say Russia is targeting schools, hospitals, and other civilian buildings. By targeting schools, Russia is taking a secure and nurturing space for children and changing them into places of fear and violence. A school director from the town of Gorlovka, Sergei But, said, "It's a tragedy for us. It's a tragedy for the children." His school was a place where children flew kites and took photos of their friends. Now, he said, it is in ruins, with broken glass and wreckage. Two teachers, Yelena Kudryk, the geography teacher, and Yelena Ivanova, the assistant director of the school, were killed. In towns like Oktyrka, cluster bombs, shelling, and gunfire have destroyed several kindergartens. Young children, teachers, and parents have been killed. Valeria Grusha has taught in Kyiv province for 35 years. She said that just as school administrators had started to prepare for the war, Russian troops invaded. They stopped teaching and called Ukrainian leaders. Grusha said, "When I started talking to the directors of the destroyed and robbed institutions, they were very worried, crying, telling with pain and regret."
Russian officials deny attacking civilian buildings like schools and hospitals. Local media in Russian-held Gorlovka said Ukrainian forces caused the explosion that killed 2 teachers while trying to recapture the town. War crime experts say it will be difficult to prove the intent of the attacks, even with the destruction and killing of civilians. David Bosco is a professor and researcher of international relations and war crimes at Indiana University. He said that prosecuting war crimes can be difficult. If the military uses civilian buildings, then those buildings can be wartime targets. The chief idea is to find a pattern of Russia targeting civilian buildings, like schools, as a military approach. The more you can show a pattern, then the stronger the case becomes that this was really a policy of not discriminating between military and civilian facilities, Bosco said. Surviving such conflicts like war and having schools destroyed hurts teachers and students for generations to come. Bosco said schools are supposed to be a safe place. He said destroying that is, in essence, attacking the next generation. Abdul Kafi Alhamdu is a Syrian teacher from Aleppo, Syria. Yasminko Halalovich is a 34-year-old from Sarajevo in present-day Bosnia-Herzegovina. Both men have seen school destroyed by war and suffering. Alhamdu saw these things during the Syrian civil war in 2014, and Halalovich saw it during the Bosnian war in the early 1990s. Alhamdu remembers the children's paintings dripping with blood after a bomb exploded during an artwork presentation. He said that creating fear, hopelessness, and anger in the children is the goal of the enemy. Alhamdu said, "When they see their school destroyed, do you know how many dreams have been destroyed?" Halilovic was a young child during the Bosnian War. He also went to school in underground rooms. He has founded the War Childhood Museum. It records children's stories and saves objects from wartime. He has worked with displaced Ukrainian children since the start of the invasion of the Donbas area in Ukraine in 2014. He recently had to remove himself and his workers because of the current conflict. Halilovic said, "Once the fighting ends, the new fight will start, to rebuild cities, to rebuild schools and infrastructure, and to rebuild society, and to heal. And to heal is the most difficult," he said. More than half of Ukrainian children have been displaced. Schools have become shelters, and the war has forced learning underground. Millions of children are continuing their studies on the internet. International aid organizations like Save the Children and UNICEF have been working with the government to set up internet learning programs. Save the Children said in a statement, "Educating every child is essential to preventing grave violations of their rights." I'm Jill Robbins.
And I'm Faith Perlow.
On our national parks journey, we are exploring the oldest national park east of the Mississippi River. Much of the park sits on a rocky island off the coast of Maine called Mount Desert Island. Here, you will find the tallest mountain on the east coast. You will also find black bears, moose, and more than 300 kinds of birds. This national park also holds unique Native American and European history. It is called Acadia. The 14,000-hectare park is one of the smaller major national parks in the country. Yet Acadia sees almost 3 million visitors every year. They come to experience stunning views and take part in outdoor activities like hiking and biking and swimming in the crisp blue Atlantic Ocean.
Acadia National Park has had many names throughout history. It was first declared a national monument in 1916. Its name, Sierre des Monts National Monument, was changed by Congress in 1919. It then became known as Lafayette National Park. In 1929, the park became Acadia National Park, from a past name for the area. The name Acadia probably comes from Arcadia, an area of Greece. It is said that an Italian explorer working for the King of France sailed by the area in 1524. The explorer thought that the landscape looked like the Greek area of Arcadia.
Mount Desert Island also got its name from early European explorers. Frenchman Samuel Champlain arrived on the island in 1604. He described the island's tall peaks as bare and rocky. He named the island, in French, Île des Monts Déserts, or Island of Desert Mountains. Today, locals still say the word desert, similar to its French pronunciation, désert. Champlain and his team were not, of course, the first humans on the island. Native Americans were the first to inhabit the area. Shells and other archaeological evidence on the island date back more than 5,000 years. The native Wabanaki people arrived there in boats made from the wood of birch trees. They hunted, fished, collected berries, and harvested clams from the sea. Wabanaki people called the island Pemetic, or sloping land.
This sloping land is home to Cadillac Mountain. It is the highest point along America's eastern coast at 466 meters. The island owes its landscape to ancient glaciers that once covered the area. Cadillac Mountain is known as the first point in the U.S. that is touched by the rising sun each morning. The name of its early inhabitants, the Wabanaki, translates to People of the Dawn. Today, the summit of Cadillac Mountain is often packed with visitors, many of whom arrive in cars and buses. It is one of the major tourist attractions within the park.
Many tourists also visit what may be the most photographed rock in the state. Bubble Rock is a giant boulder. It sits right on the edge of the summit of South Bubble Mountain. It was moved here by powerful ancient glaciers. Bubble Rock looks as though the slightest wind may push it over the mountain's edge. Visitors often take photos of themselves trying to push the huge rock off the mountain. Of course, Bubble Rock does not move. The Bubble Rock Trail winds up South Bubble Mountain. It is one of the most popular hiking trails in the park. But Acadia does offer solitude for visitors hoping to enjoy the quiet of nature. Within the park are more than 200 kilometers of trails. Many lead to stunning views of the rocky main coast. Some take you to pebbled beaches or quiet lakes surrounded by forest.
Many visitors to Acadia spend most of their time exploring Mount Desert Island. But the Scudic Peninsula is equally beautiful. The National Park Service now protects more than 1,300 hectares of land there. Scudic offers secluded beaches and peaceful hiking trails.
In summer months, visitors can take a boat from the town of Bar Harbor on Mount Desert Island to the town of Winter Harbor on Scudic Peninsula. The tiny fishing town is a great place to enjoy Maine lobster in many forms. A few small family-owned restaurants serve classic Maine dishes, like
lobster soup, lobster rolls, or simple steamed lobster. But wherever visitors explore in Acadia, they will leave wishing they could see more. I'm Ashley Thompson.
And I'm Katie Weaver.
And that's our program for today. Listen again tomorrow to learn English through stories from around the world. I'm Jonathan Evans.
And I'm Ashley Thompson.